Bonsoir à tous, merci de votre venue donc, pour accueillir et pour écouter Hervé Kempf, donc, qui vient nous présenter son dernier ouvrage, l'initiative de Mola. Et peut-être pour cadrer un petit peu les choses, on va passer après à un jeu de questions-réponses, mais pour présenter rapidement Hervé Kempf. Hervé Kempf, c'est donc un journaliste, hein, c'est quelqu'un qui s'est fait remarquer notamment au Monde, hein, parce que vous étiez en charge de la rubrique environnement à l'époque. Vous en êtes parti avec fracas, puisque je dirais sur des convictions fortes justement au niveau écologique, notamment concernant Notre-Dame-des-Landes, puisque à l'époque Hervé Kempf couvrait Notre-Dame-des-Landes, l'affaire donc de l'aéroport et du fait d'un certain nombre, semble-t-il, de censure, on va dire, de la rédaction du Monde, il a claqué la porte et il s'est investi dans un site, dans un journal, en fait, Internet, qui s'appelle Reporter, qui existait donc déjà avant, mais qui a pris de fait une autre dimension à partir de ce moment, c'est-à-dire, je crois que c'était en 2013. Et donc, le site Reporter, qui est un petit peu, je dirais, un des médias, voire le média même de référence sur la question de l'écologie, qui sert aussi à relayer un certain nombre de causes, un certain nombre d'actions, qui donnent des éclairages justement sur toute cette question écologique, mais voilà, dans une optique très militante, hein, et très, donc pas partisane, mais très militante dans le sens où...
Non, pas militante, engagé.
Engagé, voilà, c'était le terme que je cherchais.
D'information quand même précise.
Et d'informations précises, effectivement, avec plutôt du travail de fond, justement. Hein. On n'est pas dans de la simple information, mais on est bien, effectivement, dans des articles assez fouillés. Bref, donc Hervé Kempf aussi s'est signalé par un certain nombre d'ouvrages. Vous les avez d'ailleurs à l'entrée. Donc c'était « Comment les riches détruisent la planète ». Souvent, vous voyez des oppositions entre deux termes. Donc « Comment les riches détruisent la planète ». Il y avait « Pour sauver la planète, sortez du capitalisme ». Il y avait aussi « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie » et « Fin de l'Occident, je crois, naissance du monde ». Voilà, si je ne me trompe pas, y compris dans l'ordre. Donc, où à chaque fois était questionné notamment le rapport entre l'écologie et les questions sociales et politiques, en fait, à chaque fois, puisque l'enjeu écologique, l'enjeu environnemental pour Hervé Kempf n'est pas seulement de l'ordre de la protection de l'environnement, ce n'est pas une approche simplement environnementaliste, on dirait, ou d'écologie profonde, diraient certains, mais c'est bien une question à la fois sociale et politique, et donc un objet de conflit. C'est pour ça que je parlais de militantisme, mais en tout cas d'engagement, effectivement, le terme est plus adéquat. Bref, là, avec cet ouvrage, au titre dévastateur, tout est prêt pour que tout empire, hein, on peut se dire, c'est pas très optimiste, a priori, mais en fait, vous verrez qu'il n'en est rien. Donc avec ce livre, on est plutôt dans, je dirais, quelque part, dans le prolongement, en fait, des quatre précédents, et c'est presque une synthèse et une ouverture et une invitation, finalement, à l'engagement, précisément, et au fait, bien, de porter la cause écologique. Et dans cet ouvrage, précisément, Hervé Kempf cherche à travailler. Alors, il a une approche très historique, en fait, vous verrez, on va y revenir, mais il a une approche très historique depuis, mais ce qui était vrai, hein, souvent d'ailleurs, des ouvrages précédents, qui part, en fait, des années 70 jusqu'à nos jours, et qui essaye de voir, finalement, comment la pièce qui se joue actuellement a pu se monter au fil des années, et pour montrer, en l'occurrence, plus précisément, les liens entre l'émergence du néolibéralisme, évidemment, Thatcher, Reagan, dans les années 80, la question du terrorisme que l'on vit évidemment avec une acuité particulière, et la question évidemment écologique et du réchauffement climatique, en plus avec des faits, je vais y revenir, hein, avec des événements récents, on va dire, qui évidemment rendent la lecture de ce livre particulièrement indispensable. Et donc avec son apport et son regard de journaliste, hein, donc c'est un livre très documenté, très précis, qui à la fois arrive à donner un panorama général, mais en même temps en allant très vite, des fois dans des précisions très fines, en fait, et c'est ça finalement le grand atout de cet ouvrage, qui est à la fois très grand public et en même temps très précis, très factuel et très étayé. Bon, ça envoie la plume, je dirais, du journaliste, et puis qui clairement doit empiler une documentation au quotidien assez importante. Bref, donc du coup, je vais passer maintenant à quelques questions. La première question, finalement, c'est peut-être, on va rebondir avant même ceci sur l'actualité, et ensuite on verra justement comment peut-être l'ouvrage peut y apporter des réponses. C'est le retrait, évidemment. Alors déjà, la question de la COP21, qu'en avez-vous pensé déjà au moment de son adoption? Et aujourd'hui, au moment de l'annonce de son retrait par les États-Unis et Donald Trump, finalement, quelles conséquences et quelles leçons plus exactement en tirez-vous?
Ben, d'abord, merci de votre présentation, Timothée Duverger. Elle est vraiment très, très claire. Et je vous en remercie. Sur la COP21, ce qui était en jeu, c'était qu'il n'y avait plus d'accord international qui concernait le climat depuis le quasi-effondrement du protocole de Kyoto, qui avait été signé en 1997, mais qui avait toujours été très affaibli, notamment parce que en 2001, George W. Bush, qui était le président de l'époque, avait, de manière très comparable à ce qui vient de se passer, refusé de signer le protocole de Kyoto et de le confirmer, de le présenter au Congrès. Donc cet accord était totalement déséquilibré et de fait s'est révélé inefficace. Il y a eu l'effort jusqu'à la conférence de Copenhague en 2009, et vous vous rappelez peut-être qu'il y avait à la fois un espoir immense pour cette conférence et puis un blocage qui s'est révélé au dernier moment, enfin dans les derniers jours, par un conflit, un affrontement entre les positions de la Chine et celles des États-Unis, où Barack Obama était le président. À nouveau, il y a eu tout un travail diplomatique pour renouer le fil de la négociation et arriver à cet accord de Paris qui avait deux... Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Il était sans doute insatisfaisant du point de vue écologiste, qui devrait être le plus largement partagé. C'est-à-dire que, en termes d'engagement et de contraintes pour les États, c'était assez faible. Mais en même temps, d'une part, il posait des objectifs clairs et notamment confirmait le fait qu'il faudrait absolument éviter de dépasser 2 degrés Celsius de réchauffement en 2050 par rapport à l'ère pré-industrielle. Et ça, c'était très important parce que pour la première fois, en fait, c'était une confirmation de ce qui s'était fait à Copenhague, mais l'ensemble de la communauté internationale, c'est-à-dire pas seulement les pays riches, les pays développés, les pays occidentaux, pour le faire simple, mais l'ensemble des pays du Sud, dont la Chine, dont l'Inde, dont le Brésil, acceptaient, disaient, c'est pas seulement une affaire des pays du Nord, les anciens colonisateurs, c'est maintenant un problème tellement grave qu'il doit être partagé par tous. Et donc, nous aussi, on va chercher à accepter cette discipline collective. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, si on réfléchit bien, la question climatique est le seul domaine de la diplomatie, le seul lieu de la diplomatie où l'ensemble des pays sont vraiment parties prenantes. Il n'y a pas d'autres négociations qui soient aussi universelles. Même l'OMC ne comprend pas autant d'États impliqués. Donc là, c'est la deuxième chose. Il y a une valeur symbolique qui me paraît extrêmement forte dans la négociation climatique et dans l'accord de Paris maintenant, c'est qu'il y a un universel qui se fait, la communauté internationale, enfin, ce terme de communauté internationale est un petit peu rebattu, mais d'une certaine manière, l'humanité, la société politique humaine se met en scène, et après tout, c'est important, se rend visible dans cette question et dit, eh ben, la question la plus importante, c'est celle du climat, puisqu'on est tous là autour de cette table. Donc ça, c'était l'importance de cet accord de Paris, même si on rentrait dans le débat technique, on dirait, bon, il n'y a pas grand-chose dedans, il n'y a pas beaucoup d'avancées réelles, mais voilà, c'était reposer la nécessité de discuter ensemble et se mettre d'accord sur un cadre, c'est-à-dire en fait une vision commune. Et deuxième question, qu'est-ce qu'on pense de ce qui vient de se passer avec la décision du président des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris, de refuser d'y adhérer totalement, quelque chose qui justifie totalement le titre. La question n'est pas est-ce que tout est prêt pour que tout empire, c'est pessimiste ou optimiste, c'est considérer une situation de fait. Cette situation n'est pas ni optimiste ni pessimiste. Elle est perçue comme étant pessimiste. Mais en fait, je dis simplement, on est là dans une situation d'équilibre très, très, très instable. Mais ça veut dire qu'on peut revenir en arrière. On peut changer, évidemment, la situation pour éviter que ça empire. Et pour qu'au contraire, ça aille mieux. Alors bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, malheureusement, toute la partie historique... Timothée, vous l'avez lu, vous le savez, ça se conclut justement sur la position de Donald Trump. Parce qu'évident, moi, ça me paraissait la chose la plus importante dans les événements récents. Le président de ce qui reste la première puissance mondiale en termes militaires, en termes économiques, en termes culturels aussi, d'une certaine façon, dit « Moi, je ne crois pas à ce qui est la question politique ça, je me remets mes mots, hein, mm-hmm. c'est pas ceux de M. Trump, mais moi, Donald Trump, je ne crois pas à ce que, et là, je reprends les mots de nous, de moi, à ce qui est la principale question politique qui concerne l'humanité en ce début du XXIe siècle. Et quand on parle de question politique, ne nous trompons pas sur le mot politique. La politique, c'est l'ensemble de ce que nous décidons en commun, de la mm-hmm. façon dont on discute en commun, dont une société discute en commun par rapport à ses problèmes, pour savoir dans quelle direction elle va aller. Et donc, eh ben, c'est extrêmement grave. Et malheureusement, moi, j'espérais que M. Trump resterait dans l'accord de Paris. Ça a quand même été une surprise, mmh. parce que pendant plusieurs semaines, on a senti qu'il y avait un débat très grand. Et il a choisi, finalement, d'affaiblir, de se retirer de cet accord de Paris. Donc, ce que j'en pense, c'est que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave pour plusieurs raisons. C'est grave en soi. C'est-à-dire tout ce que je viens de dire sur l'accord de Paris, cette mise en scène, cette mise en scène au bon sens du terme, la façon dont le monde se dit on va travailler ensemble, on va réfléchir ensemble aux problèmes, eh bien, il y a un des principaux joueurs qui sort du jeu. Ça veut dire qu'on est très affaibli. Tout le système international et toute l'utopie au bon sens du mot international est extrêmement affaiblie. Toute cette utopie qui est des Nations Unies, qui était faite en 1944 et 45, voilà, est très considérablement affaiblie. Ça veut dire aussi que dans l'ordre international, ben, quand vous avez un vide qui apparaît quelque part, ça crée une situation d'instabilité extrêmement grande. On peut aussi penser que, et c'est l'analyse que je fais, que derrière cette question qui apparemment ne concerne... Enfin, je reprends là à nouveau avec mes mots, mais pour bien m'expliquer. L'écologie n'est pas, même si c'est présenté généralement par les médias, par le système économique, par les décideurs, comme une situation, quelque chose de relativement secondaire par rapport à l'important qui serait l'économie, qui serait le développement économique, qui serait la prospérité. Non, c'est absolument essentiel. Pourquoi c'est la question essentielle au sens politique ? Parce qu'en fait, ce qui se joue derrière... c'est la paix et la guerre. Et la question politique, pour reprendre cette amorce de définition que je proposais, il s'agit de savoir comment une société travaille ensemble, réfléchit ensemble, pour surmonter les conflits. Sachant que la société humaine, tout groupe humain, a une tendance naturelle à aller vers le conflit, et que l'enjeu de la politique, c'est d'éviter que ce conflit périclite, même si parfois ça réussit pas et on va à la guerre. Et ce qui est en jeu, en fait, derrière le climat, c'est pas les petits oiseaux, c'est pas quelques degrés de plus, c'est pas quelques données, c'est véritablement la question de la paix et la guerre. Pourquoi ? Ben, j'imagine que ici, maintenant, si vous êtes venu ici, si vous avez des idées déjà là-dessus, et vous le savez, ben, c'est que l'aggravation des sécheresses, l'aggravation des inondations, des sécurités, des situations alimentaires qui se dégraderaient, des productions agricoles qui s'effondreraient rapidement, et ben, tout ça, c'est une instabilité dans des pays, dans des économies, chez des populations qui conduiraient à des conflits entre les uns et les autres, à des migrations, à des conflits pour les ressources. Et donc, la décision de M. Trump est extrêmement inquiétante parce qu'elle est, à mon sens, le prémisse pas le prémisse de guerre, mais un élément, un comburant de plus à la possibilité de situation qu'on va qualifier instable, pour employer une périphrase. Et excusez-moi d'être un petit peu long là-dessus, mais c'est vraiment important. Il y a d'autres aspects aussi. C'est que quand M. Trump fait ça, c'est en même temps, pour ceux, si vous avez eu le temps de regarder son discours qui est abracadabrant, c'est il veut relancer la croissance à tout prix. C'est-à-dire ce pays qui est déjà un des plus riches du monde, ou le plus riche du monde collectivement, qui a déjà un impact écologique extrêmement fort, qui a déjà des taux de croissance relativement élevés, on a encore un monsieur, et il n'est pas tout seul, il représente une élite, il représente une partie large de la classe dirigeante et de la classe économique aux États-Unis, veut relancer des feux de la croissance, et donc va vouloir chercher encore plus de combustibles fossiles, va vouloir avoir encore plus de gaz de schiste, va vouloir avoir encore plus de sable bitumineux ou de pétrole en Alaska ou dans l'Arctique. Et donc, il va à la fois dégrader l'environnement, relancer les émissions de gaz à effet de serre, et aussi dans cette logique de croissance qui a toujours plus besoin de matières premières parce qu'on ne sait pas faire de croissance économe, mais ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de conflits aussi sur les ressources, sur les matières premières. Donc tout ça mis ensemble fait que c'est une décision extrêmement grave, que c'est extrêmement inquiétant, et que je pense qu'en fait... voilà.
Merci déjà pour cette analyse, on va dire, de la situation présente. Effectivement, on voit bien ce qui justifie du reste le titre du livre. Peut-être, et c'est un des apports systématiques de vos différents ouvrages, en fait, c'est ce recours à l'histoire en permanence pour voir finalement comment les choses se sont organisées pour être ce qu'elles sont aujourd'hui et pour finalement faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire du catastrophisme éclairé. C'est-à-dire, en fait, l'idée de dire on voit la catastrophe telle qu'elle est amenée à se produire dans l'immédiat pour justement, précisément, arriver à l'éviter au dernier moment. Donc, finalement, vous avez ce retour, je vous dis, à l'histoire avec, vous le mentionnez d'ailleurs dès le début de l'ouvrage, un tournant que vous situez à 1978-1981, et peut-être que vous pourriez revenir là-dessus et nous expliquer pourquoi c'est ces dates-là que vous avez identifiées comme étant le moment de bascule, et finalement comment les choses se sont mises en place dans les décennies qui ont suivi.
Oui, alors deux petites remarques d'abord en rebond à ce que vous dites, et je vous en remercie, c'est l'histoire, en fait, parce que moi j'ai une formation d'historien, sans être un historien professionnel, mais j'avais fait des études d'histoire et j'avais eu un énorme plaisir à le faire d'abord, et j'en garde toujours le goût, et je trouve que souvent c'est une clé de compréhension du monde ou même de situations même personnelles. Quand on retrace l'histoire, c'est-à-dire comment les gens, les situations ont évolué, on n'a pas l'explication, mais on a des éléments d'éclairage très, 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 qui aident à comprendre ce qui se passe. Et deuxième point, vous avez employé le catastrophisme éclairé. Précisons bien que c'est quasiment une position philosophique. Vous faites référence, par exemple, je crois que c'est Jean-Pierre Dupuis qui a employé ce terme. Et d'une certaine manière, ça renvoie aussi au travail d'un autre philosophe qui est absolument fondamental, dont on va redire un mot, qui est Hans Jonas. Donc, ce terme de catastrophisme éclairé peut être assumé. Et là, je redirais une parenthèse avant de répondre à votre question, c'est que c'est le paradoxe de l'écologie. C'est que les écologistes, et là, de ce point de vue-là, je me range en tant que tel, sont ceux qui disent on voit les signes de ce qui pourrait devenir une catastrophe et une situation extrêmement grave, et c'est parce que nous en voyons les signes que nous voulons agir et proposer des solutions pour éviter qu'on aille dans cette situation. Alors que, c'est le paradoxe, c'est que, d'une certaine manière, le catastrophiste est optimiste. Parce qu'il dit, on peut l'éviter si on fait ceci et cela. Alors que le courant dominant, la culture dominante, l'idéologie dominante, que pour faire simple, on va appeler le néolibéralisme, dit, mais non, c'est toute cette histoire de catastrophe, vous êtes trop pessimiste, etc. Faisons de la croissance, continuons, tout va aller bien, on va s'en sortir, parce que la technique va être le remède magique à tout. Et donc, en fait, en refusant l'idée même de catastrophe, ils accroissent la possibilité de la catastrophe. Donc c'est le paradoxe qu'avait très bien expliqué Jean-Pierre Dupuis. Alors pourquoi effectivement je considère que ces quelques années autour de 1980 sont un élément central, un moment de basculement plus exactement qui va amener à la situation qu'on connaît maintenant. Je vais essayer d'aller vite pour ne pas... autrement, ça prendrait du temps et j'espère que le livre parlera mieux par lui-même. Mais en grosso modo, on était avant, dans ce monde, on a évoqué les Nations Unies en 1944-45, qui sont créées au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et avaient lancé finalement une période qu'en France, on a appelée, à la suite de Jean Fourastier, les Trente Glorieuses, et où il y avait un certain ordre du monde qui était au demeurant pas absolument pacifique. C'était gouverné par la tension entre l'Union soviétique et les États-Unis, la guerre froide, mais aussi une situation où il y avait ce qu'on appelle l'État-providence, c'est-à-dire que même si on était en économie de marché et un régime capitaliste, les rapports de force entre les groupes sociaux, entre le capital et le travail, pour faire simple, étaient suffisamment équilibrés pour qu'il n'y ait pas de situation de développement d'inégalité. Il y avait une inégalité, mais elle restait assez stable, et il y avait un accord, même s'il était compliqué, sur les partages de la richesse et des fruits, justement, de la croissance de cette époque. Et par ailleurs, l'État se considérait comme étant beaucoup plus porteur de l'intérêt public et de l'intérêt général que ça n'est le cas aujourd'hui, et se fixait la charge, en quelque sorte, d'assurer le bien-être ou l'équilibre de la société en se mettant à distance des grands intérêts économiques. Et par ailleurs, avec une vie démocratique qui certes, était imparfaite, mais fonctionnait beaucoup mieux. Donc voilà, c'était très, très rapidement et très schématiquement la situation qui s'était posée pendant ces 3 à 4 décennies. Et puis, on voit basculer autour de... Alors, entre 1978 et 1980, on voit une succession d'événements qui, rétrospectivement, vont prendre un sens tout à fait énorme et qui montrent comment tout va basculer. En 1978, Deng Xiaoping, le nouveau dirigeant chinois, engage les 4 modernisations et en fait fait sortir la Chine de du communisme, du maoïsme, et fait rentrer la Chine dans le commerce international et dans une logique de d'échange économique avec l'extérieur et de développement très fort, en tout cas économique, mais pas sur la politique, mais en tout cas fait rentrer vraiment la Chine dans le jeu international sur le plan économique. En 1979, on va avoir en janvier la chute du Shah d'Iran par une révolution religieuse dirigée par l'imam Khomeini. Et ça, c'est extrêmement important. Le Shah d'Iran était un dictateur absolument terrible, hein, qui a été notamment très, très bien raconté par le livre de Kapuscinski. Mais enfin, c'est un détail. Mais c'est une révolution qui n'est pas une révolution populaire. C'est une révolution populaire, mais qui ne se fait pas au nom de l'inégalité, de la justice, comme on peut le penser dans l'histoire politique occidentale, mais qui se fait sous le drapeau d'un renouveau de l'islam. C'est l'islam, en l'occurrence chiite, mais d'une révolution religieuse. Et ça va avoir une succession d'événements, d'autant plus que ça entraîne un deuxième choc pétrolier. Vous vous rappelez qu'en 1973, il y a eu un choc pétrolier extrêmement important avec un quadruplement des prix des pétroles qui a complètement bouleversé la décennie 70. Et au passage, on va y revenir, a prodigieusement enrichi l'Arabie saoudite et les États du Golfe et l'Iran. Et la chute du Shah d'Iran provoque un deuxième choc pétrolier avec un doublement à nouveau des cours du pétrole. Donc à la fois le même phénomène d'enrichissement des pays pétroliers et une déstabilisation économique extrêmement forte. Il va se passer deux choses à la fin de l'année, notamment à la fin de 1979. Margaret Thatcher va être élue Premier ministre en Angleterre. On va y revenir. Donc ça va être le lancement du néolibéralisme. Et l'URSS, l'Union soviétique, qui est à l'époque dirigée par Léonid Brejnev, et les plus anciens dans cette salle, qui ont à peu près mon âge ou après, se rappellent peut-être qu'à l'époque, l'Union soviétique était extrêmement puissante. C'était beaucoup plus puissant que la Russie de Poutine aujourd'hui. C'était vraiment le deuxième bloc, et d'autant plus que les États-Unis étaient extrêmement affaiblis, parce qu'économiquement, la décennie 70... les avait, et ce choc pétrolier les avait appauvris, en tout cas déstabilisés, alors que l'URSS, l'Union soviétique, qui tire une large part de ses ressources de la vente de pétrole, parce que l'Union soviétique et la Russie d'aujourd'hui restent un grand producteur de gaz et de pétrole, s'était beaucoup enrichi. Et donc, dans cette guerre froide que j'ai évoquée tout à l'heure, Brejnev et ceux autour de lui disent « Bon, bah, on va vraiment filer un bon coup à les États-Unis, on va envahir l'Afghanistan », ce qu'ils font en Noël, à Noël 79. Et là, il va se passer quelque chose de tout à fait étonnant. C'est qu'il va y avoir une rébellion, une révolte d'un certain nombre de tribus, mais qui, en gros, vont être, sur ce point-là, coalisées contre l'envahisseur, et qui vont, dans les années qui vont suivre, bloquer cette invasion et enliser l'armée soviétique. Et vont trouver une large part de leur énergie de combat dans une inspiration islamiste. C'est que là aussi, de la même manière que la révolte populaire en Iran avait un fondement, un aliment religieux extrêmement fort, c'est aussi ce qui va se passer dans la révolte afghane. L'année suivante, il va y avoir un événement qu'on a oublié, que moi j'ai un peu redécouvert en préparant ce livre, quelque chose d'extrêmement important, qui est l'invasion de la Mecque, enfin l'occupation de la Mecque par des intégristes musulmans. Donc la Mecque, c'est le centre symbolique extrêmement important de la religion de l'islam, et il va être occupé pendant 15 jours, le lieu saint, par des intégristes musulmans armés de, je ne sais pas, Kalachnikov et autres instruments. Ils vont être imaginés, pour bien comprendre l'importance de ce qui s'est passé là, que si la basilique Saint-Pierre de Rome était envahie avec des armes, des bazookas et des mines par des intégristes catholiques qui diraient « le pape François, il est vraiment trop... ça va pas du tout ». Et ils occuperaient Saint-Pierre de Rome. Donc c'est exactement ça qui s'est passé. Le régime, la royauté d'Arabie Saoudite va, avec l'aide d'ailleurs de forces étrangères et notamment françaises, va réduire à néant cette insurrection. Mais elle entend le message. Qu'est-ce qu'elle disait, cette insurrection, au moment où, depuis quelques années, avec ses revenus pétroliers provenant des États-Unis largement, l'Arabie Saoudite, le régime d'Arabie Saoudite se disait, bon, bah, on va s'ouvrir, on va se moderniser, on va un peu s'ouvrir à l'Occident. Là, il y avait une corde de rappel extrêmement forte. Non, non, il faut rester enraciné dans la pure tradition islamiste, religieuse, etc. Et le royaume d'Arabie Saoudite va entendre le message et va revenir à une rigueur religieuse plus forte. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, en se réenracinant dans le wahhabisme, qui est une forme d'islam très austère, qui est née d'ailleurs en Arabie Saoudite. Et par ailleurs, ensuite, l'Arabie Saoudite va alimenter largement un certain nombre de réseaux qui vont devenir terroristes ou d'islamistes très militaire, et en tout cas, dans les années suivantes, va soutenir les rebelles afghans. Autre événement qui se passe encore, et l'année suivante, en 1980-81, l'arrivée au pouvoir aux États-Unis de Ronald Reagan, néolibéral, très, et on va en dire un mot, comme Margaret Thatcher, et qui va faire le basculement total avec cet État-providence dont j'avais parlé tout à l'heure. Et en termes de géopolitique, il va soutenir, avec l'allié traditionnel qu'est l'Arabie Saoudite, l'allié traditionnel des États-Unis, il va soutenir la résistance en afghane, en sachant pertinemment que c'est une résistance islamiste. La CIA connaissait Ben Laden dès les années 80 et l'a alimenté en missiles Stinger, en armes diverses, etc. Donc voilà, on se retrouve dans la situation où, parce qu'il s'agit évidemment dans le contexte de l'époque de battre l'URSS, et vous vous rappelez peut-être que la politique de Ronald Reagan va être de vraiment abattre l'Union soviétique et donc de soutenir les rebelles afghans qui se trouvent être des factions islamiques. Voilà, pour aller vite, encore deux éléments très importants aussi de cette époque. Je reviendrai quand même un mot sur le néolibéralisme, mais en février 1979 se déroule à Genève, dans l'indifférence à peu près la plus totale, on ne retrouve quasiment pas d'articles de presse qui relatent ça, mais ça a bien lieu, la première conférence sur le climat, convoquée par l'ONU avec beaucoup de scientifiques, et c'est le moment où la communauté scientifique et une partie des institutions internationales se disent « Mais attends, il y a un vrai problème avec le climat, il faudrait y faire attention ». Ça va lancer, en fait, tout ce qui va conduire plus tard au GIEC, au groupe intergouvernemental d'évolution sur le climat, d'experts sur l'évolution sur le climat, qui va conduire à la connaissance que nous avons maintenant du changement climatique. Et puis, j'en ai dit un mot, mais je ne veux pas être trop long, l'apparition la même année de ce livre de Hans Jonas, Le principe responsabilité, grand philosophe allemand, qui va avoir un succès d'abord important en Allemagne. Alors, ce n'est pas la même temporalité que l'invasion russe, la prise de pouvoir ou l'arrivée au pouvoir de Madame Thatcher ou Monsieur Reagan, mais ça va, à mon avis, enfin, le livre va avoir une importance énorme. Certains d'entre vous l'ont lu ou le liront, et ça mérite vraiment un effort de lecture important. Mais pour résumer, c'est le livre qui, à mon sens, rompt avec l'idéologie au bon sens du terme. Quand j'emploie le terme idéologie, c'est pas négatif comme la tendance en a, mais on va dire la philosophie des Lumières, cette philosophie progressiste qui disait, et nous vivons très largement encore là-dessus, qui disait l'humanité va en s'améliorant. Évidemment, il y a plein de choses mal qui vont, mais le progrès humain avance, le progrès de la raison, le progrès des Lumières, et nous allons vers une amélioration de la situation humaine, de la civilisation humaine. Ce que dit Jonas, en s'appuyant sur une analyse écologique, au sens d'analyser, disant maintenant, l'humanité, la société humaine s'est tellement développée, notamment avec cette technologie, qu'elle se crée les conditions de sa propre destruction éventuelle, ou en tout cas de sa propre nuisance éventuelle. Et donc, l'enjeu n'est plus tellement d'aller vers le progrès, mais d'imaginer, dans une perspective apocalyptique, et c'est les termes de Jonas, d'imaginer le pire, et donc la nouvelle situation de l'humanité est d'éviter que les choses arrivent. que des choses graves arrivent. Donc c'est un renversement profond de l'idée de progrès qui, à mon avis, est maintenant a pris sa pleine ampleur, même si ce n'est pas forcément lisible. Voilà. Et puis un dernier mot sur le néolibéralisme de Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Il va, alors peut-être que dans la suite de la discussion, on verra comment ça s'articule avec la question du terrorisme et de l'écologie, mais ils vont lancer en fait la révolution. C'est une révolution à rebours, très rétrograde à mon avis, et donc chercher à affaiblir très profondément le rôle régulateur de l'État, l'intervention de l'État en tant que puissance publique dans la recherche d'une harmonie sociale, et vont lancer, notamment par des politiques fiscales, un processus de développement des inégalités extrêmement continu qui va être, et c'est très clairement marqué dans les courbes analysées par les économistes, comme par exemple en France Thomas Piketty, qui a joué un très rôle pour montrer l'évolution de l'histoire de l'inégalité dans les 30 à 40 dernières années. On voit très clairement, à partir de 1980, un changement. C'est-à-dire qu'avant, les rapports, il y avait une inégalité, mais les rapports étaient assez stables. À partir de 1980, les courbes montent et l'inégalité va monter très largement, d'abord aux États-Unis et en Angleterre, et puis en fait, ensuite, dans tous les pays occidentaux.
Merci déjà pour ce décryptage, on va dire, du tournant donc des années autour des années 80 en fait, où on voit bien comment tout se noue déjà dans un premier temps. Il y a aussi quelque chose que vous développez beaucoup, c'est un autre moment de bascule en fait, même si vous l'identifiez pas forcément comme tel, je crois dans le livre, mais c'est les années 2000 en fait, où là vous montrez très clairement comment les choses se mettent en place avec le terrorisme bien sûr en 2001. Au World Trade Center, la question du référendum européen et le déni de démocratie qu'il peut y avoir, il y a la question de la révolte des banlieues, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se nouent, en fait, autour de ces années 2000, que ce soit sur un plan démocratique, sur un plan social, sur le plan du terrorisme, sur le plan, évidemment, écologique. Est-ce que vous pouvez peut-être, et puis avec, évidemment, la question de l'Irak aussi en toile de fond, est-ce que, éventuellement, vous pouvez revenir un petit peu sur tout cela et nous montrer, justement, peut-être comment s'articulent précisément ces trois phénomènes que vous reliez dans le livre, à savoir à la fois la question du néolibéralisme, la question du terrorisme et la question écologique.
Oui, et du coup, ça me permet d'expliquer comment, et pour autant que ce soit intéressant, mais comment est né ce livre et d'où il est né. En fait, c'est un livre, j'allais dire, rapide, qui est, alors que les livres précédents étaient plus mûris, celui-là a été un livre instinctif, même si après, vous l'avez dit, il y a pas mal de boulot derrière. Mais en gros, c'était, et ça va faire un an à peine, c'est tout à fait stupéfiant, les attentats de Nice le 14 juillet, qui avaient succédé ceux du Bataclan et de Paris. Et comme tout le monde, j'étais à la fois sidéré et très ému. Et puis, dans les semaines qui ont suivi, il y a eu quelques déclarations absurdes, comme celle de M. Guénot, qui disait qu'il fallait donner des bazookas à tous les policiers, où il y a eu cette querelle absurde autour du Burkini. Et là, je me suis vraiment dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a intellectuellement quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, par rapport à cet événement qui est très grave, on dérive et on ne le pense pas. Et donc, j'ai eu vraiment le besoin. C'est même le jour même où je partais en vacances, et j'aurais pu me dire, écoute, lâche un petit peu, mais je me suis dit, il faut essayer de raconter que cette question du terrorisme est évidemment importante, mais on ne peut pas l'isoler, comme c'était présenté majoritairement, comme étant une sorte de phénomène autonome. Non, le terrorisme n'est pas un phénomène autonome. Et après, donc, je suis rentré dans ce livre qui essaye effectivement, par la méthode de l'histoire, de montrer comment ça s'enchevêtre, comment ces trois fils conducteurs qui dominent notre époque, la question écologique, la question du néolibéralisme et la question du terrorisme, sont trois fils qui forment une trame, qui finissent par former une trame commune. Et pour la petite histoire, depuis quelques mois, je me disais, parce que quand on avance des idées, on doute toujours un petit peu. Et cette période d'apparent apaisement du terrorisme, et qui était une très bonne nouvelle, sauf qu'en fait, si vous regardez la liste des attentats terroristes, vous constaterez, et c'est quelque chose qu'on oublie trop en France, ici, en Europe, qu'il y a des attentats partout. Même si on n'a pas en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, il y a une série d'attentats terroristes absolument terribles, de mois en mois, de semaine en semaine. Mais on fait moins attention, évidemment, à ce qui se passe au Nigeria, au Liban, en Afghanistan, en Syrie, etc. Mais je me disais, est-ce que En fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que la question terroriste revient, et on sait maintenant, avec ces dramatiques événements, il y a eu à Stockholm, il y a eu en Allemagne, il y a eu maintenant en Angleterre, à Manchester, de manière perlée en France aussi, que cette question, elle est là. Elle est là. Et en fait, elle sera là tant que nous n'aurons pas compris comment ces trois fils s'entremêlent et qu'on aura fait en sorte d'en retirer un qui fait tenir les deux autres, si vous acceptez cette métaphore de tissu. Alors, pour répondre à vos questions, donc pour ne pas refaire toute l'histoire entre 70 et 80, donc cette période où les choses basculent, effectivement, le début de la séquence 2000 est intéressante parce que... dans les 2-3 années précédentes et celle de 2001, il va se passer une chose importante. L'URSS, donc, s'est effondrée, on l'a vu. Les États-Unis auraient pu dire, après la chute de l'URSS en 1991, bon, bah, ça y est, on sort de quand même ce qui a été quelque chose d'horrible. On oublie aussi que la guerre froide, c'était la menace permanente de bombardement nucléaire. Avec les images de l'apocalypse viennent aussi de cette crainte, pour ne pas dire terreur, puisque c'était l'équilibre de la terreur, cette crainte qu'il pourrait y avoir un enchaînement d'explosions nucléaires. Donc, bonne nouvelle, on est sorti de cette confrontation. On pourrait, puisque maintenant, cette question, rappelez-vous que le sommet de la Terre a lieu en 1992 à Rio de Janeiro, donc on commence à comprendre l'importance de la question écologique. Là, la question du climat, 15 ans après, est vraiment rentrée dans la perception commune. On sait aussi qu'il y a les problèmes de développement, d'inégalité nord-sud. Pour faire simple, les États-Unis et l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, auraient pu dire « Bon, on est sorti de cette abomination de la guerre froide, il n'y a plus la menace russe, eh bien, changeons, prenons en compte la question environnementale, la question du développement, de l'inégalité mondiale, et faisons cette société. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Les États-Unis ne vont pas prendre ce pli. » Vous vous rappelez de cette phrase qui est attribuée à George Bush père, qui était le président des États-Unis à cette époque, en 92. Je dis attribuée parce que je n'ai jamais pu la retracer, retrouver le document. Je crois que vous êtes un peu historien, Timothée aussi, donc voilà, pour appuyer quelque chose. Bon. Mais en tout cas, elle est tellement vraie, c'est en tout cas, elle exprime. C'est cette idée, le mode de vie américain n'est pas négociable. Ça voulait dire quoi ? Eh bien, nous ne changerons pas dans notre logique de surconsommation, de très grosse consommation énergétique. Nous sommes les plus riches. Eh bien, on va continuer, on va vouloir s'enrichir. Et là, on va continuer dans les politiques néolibérales, on va continuer dans la recherche de la croissance, on va continuer dans la recherche de pétrole à tout craint, et on va y revenir, mais vous voyez où je veux en venir. Et on va laisser s'accroître les tensions entre les pays du Nord et les pays du Sud, pour faire ça. La chute de l'URSS, en soi, c'est une très bonne chose. Ne nous méprenons pas. Mais ça signifiait aussi quelque chose. C'est que l'équilibre, c'était pas seulement un équilibre de la terreur. C'était aussi un équilibre des forces. C'était un équilibre des conceptions entre la conception capitaliste, pour faire simple, et la conception socialiste, de rechercher un équilibre social, une paix sociale par une forme d'égalité. Alors, évidemment, un socialisme... Alors, quand je dis socialiste, c'est pas celui du Parti socialiste, c'est celui de l'histoire du mouvement socialiste. Évidemment, une idéologie socialiste dévoyée par ce qu'était devenu l'URSS, mais malgré tout, il portait ça. Et le courant marxiste était encore très fort, et largement les forces sociales... On parlait de mouvement ouvrier encore à l'époque, les syndicats. Toute la logique était organisée par rapport à cette idée de la possibilité d'une justice et d'une égalité. Cette force disparaissant, l'idéal a disparu avec ceux qui en paraissaient quelque part les porte-parole. Et là aussi, y a un vide qui s'est créé et dans lequel s'est engouffré apparemment le néolibéralisme. C'est-à-dire, idéologiquement, le néolibéralisme a occupé tout l'espace en Occident. L'écologie n'a pas pu le faire, éventuellement on y reviendra. Et puis on va voir apparaître une autre idéologie de confrontation par rapport à... Mais qu'est-ce qui se passe ? Pendant les années 90, c'est la règne Clinton, le développement de l'informatique, une ambiance de paix, de formidable prospérité, d'apparition de nouvelles technologies, tout va bien. Et puis quand même, au fil des années, une résistance commence à apparaître. OK, il n'y a plus le marxisme, mais la question d'inégalité, elle est toujours là. Et on va voir se recréer des forces en opposition avec notamment ce qui va devenir, ce qui est en train de devenir l'Organisation mondiale du commerce et l'idéologie du libre-échange généralisé, et va conduire à, en 1999, la contestation du sommet de l'Organisation mondiale du commerce qui se crée à Seattle. Et là, à la surprise générale, alors que ça devait être une magnifique célébration de la prospérité, de l'économie, du libre-échange et du commerce, contestation, la ville bloquée, des paysans, des syndicalistes, des gens des pays du Sud. En fait, il y a une alliance qui s'est faite entre le syndicalisme traditionnel, au bon sens du terme, les paysans, les gens porteurs des intérêts des pays du Sud et les écologistes. Et tous ces gens-là se mettent ensemble et disent « il y a quelque chose qui ne va pas, on ne peut pas aller dans cette direction du néolibéralisme à tout craint ». Et ça va avoir un effet tout à fait important. Une année ou deux années après, il va y avoir un contre-sommet dans le pays sud du Brésil, un contre-sommet au sommet de Davos, le sommet de, je me rappelle, le Forum social mondial à Porto Alegre. Qui va avoir un effet énorme. Chaque G7 réunion au sommet va être systématiquement contestée par... Donc on sent que l'ordre néolibéral qui s'est instauré et qui paraissait absolument dominant est remis en cause. Et qu'est-ce qui va se passer en 2001 ? L'attentat du 11 septembre, l'effondrement par Ben Laden et Al-Qaïda des tours du World Trade Center à New York, et là, un choc absolument énorme. Alors qu'il y a plusieurs dimensions. En quoi c'est une bascule ? C'est une bascule que c'est sur le terrain même des dominants que la blessure, le coup est porté. Ça, c'est extrêmement important. C'est quelque part la fin de l'empire états-unien. Et d'une certaine manière, on y reviendra. La deuxième chose, c'est que ça signifie que par rapport à ce vide idéologique qu'avait laissé l'effondrement de l'Union soviétique, qu'avait entraîné l'effondrement et l'affaiblissement aussi intellectuel du marxisme, hein, ça va de soi, je ne sais pas si c'est la nature, mais en tout cas, la vie des idées, la vie sociale ne peut pas accepter qu'il y ait une seule force dominante, en l'occurrence le néolibéralisme, y compris dans l'ordre de la pensée. Et ce qu'expriment les terroristes, appelons-les les terroristes pour faire simple, ce qu'exprime ça, c'est il y a une force qui est l'islam et qui est une opposition radicale à ce qui est porté par, on va dire, la modernité occidentale, même si là aussi ce terme pose problème. Et puis, au passage, ce qui émergeait comme alternative, comme pensée alternative, qui était une pensée mêlant la contestation du néolibéralisme, donc une réinterprétation de la question de la justice sociale et de l'égalité, totalement articulée à la question écologique, qui prenait son ampleur donc depuis le sommet de Seattle et la contestation de l'OMC, va se trouver totalement abattue. Parce que la violence cet islamisme radical est tellement grande que l'alternative qui prenait le nom d'antimondialisme ou altermondialisme, va se trouver totalement affaibli. Et donc, on va rentrer dans une dizaine d'années qui conduit, en fait, quasiment... Encore que maintenant, ça commence à avancer, puisqu'on est en 2017, donc 2017, ça fait 16 ans, ça commence à être presque deux décennies. Mais toutes les années 2000, où toujours George W. Bush, donc le fils, est là, et qui va à la fois... ça se met vraiment... Ce qui est en train de se passer dans le monde d'aujourd'hui se met en place. Pas en désordre, mais sans donner un ordre hiérarchique à ça. Recul profond des libertés, peut-être qu'on y reviendra, au nom de la lutte contre le terrorisme. Mais la lutte contre le terrorisme permet en fait de mettre en place des lois et des mesures qui restreignent les libertés d'expression et de manifester des citoyens eux-mêmes. Poursuite à tout craint du néolibéralisme, de cette idéologie de la croissance, de la recherche de fossiles et mépris de la question écologique, puisque on a vu avec le protocole de Kyoto qu'on a évoqué une augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre extrêmement importante, où la Chine va prendre une part elle aussi extrêmement importante. Et troisième aspect des choses, engagement dans l'Irak. Cet engagement en 2003 d'une invasion américaine totalement absurde, on va dire, qui va avoir des effets absolument désastreux, et notamment de relancer de redéstabiliser à nouveau le Moyen-Orient s'il en avait besoin, qui n'était déjà pas très solide, et va relancer un nouveau terrorisme, puisque Daesh et l'État islamique, notamment, est totalement parti, c'est très bien documenté par un certain nombre de spécialistes, totalement issus de l'effondrement du régime de Saddam Hussein, et en particulier de l'effondrement de ses cadres de l'armée irakienne, etc. Et donc là, voilà, tout effectivement, ce moment de 2000, 1999-2000, voit à la fois la possibilité d'une alternative pacifique, et malheureusement, le mouvement qui était presque souterrain depuis cette guerre d'Afghanistan prend son plein éclat et nous fait rentrer dans une conflictualité beaucoup plus grande, où malheureusement le néolibéralisme va répondre de manière elle aussi très, très violente, et ce qui conduit en gros à la situation actuelle qui est complexe.
Alors justement, ce qui en est issu quelque part, et c'est un peu le système aussi de domination là que vous avez un petit peu esquissé en fait dans votre propos, c'est vous parlez d'une guerre civile mondiale en fait. C'est le titre d'un des chapitres de l'ouvrage. Et donc cette guerre civile mondiale, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et nous expliquer finalement comment, dans la situation et dans la crise, disons, je ne sais pas si c'est le terme le plus adéquat d'ailleurs, crise quand ça dure depuis 40 ans, mais toujours est-il que dans la crise que nous vivons, dans ce moment de basculement, dans ces transitions que vous décrivez, comment finalement le système et les élites que vous critiquez, hein, sans forcément les rejeter totalement, hein, vous n'êtes pas du tout dans un populisme, je dirais, qui serait un peu binaire, mais dans une critique des élites que vous faites, comment finalement elles arrivent à maintenir le système en place, puisque vous avez des descriptions assez intéressantes là-dessus.
Ouais, donc il y a deux aspects qui les deux appellent des développements. Alors d'abord, ouais, j'en vois pas où. Presque par mégarde, et en tout cas toujours entre guillemets, le terme élite, parce que le terme d'élite implique, me semble-t-il, l'idée d'une responsabilité morale dont les classes dirigeantes à l'heure actuelle me paraissent singulièrement dépourvues. Ça renvoie en fait au concept d'oligarchie que j'ai contribué à remettre dans le débat public avec le livre que vous le citiez tout à l'heure, « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie », et qui est l'analyse en termes de système politique de la situation globale que je décris par ces différents livres, et qui consiste à souligner ce phénomène majeur. En fait, le phénomène majeur, le basculement, c'est l'irruption de la question des inégalités. Ce qui va être le plus important dans ses conséquences, c'est la crise écologique que nous vivons, enfin la situation écologique gravissime dans laquelle l'humanité est maintenant engagée. Mais mon raisonnement est de dire que ça découle de la progression extraordinaire des inégalités qui s'est faite donc à partir de ce basculement des années 80. Et il va y avoir des inégalités. Alors, c'est pas compliqué en fait, mais je vous demande de l'attention. Il va y avoir un développement des inégalités au sein de tous les pays, qui continue d'ailleurs de manière encore en France. Les dernières parutions de l'INSEE, l'Institut de la Statistique, montrent une augmentation des inégalités depuis 2008 importante. Une augmentation interne des inégalités. Et c'est là il faut et apparemment un resserrement des inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud, si on raisonne en moyenne, et qui est notamment l'effet de l'extraordinaire croissance et développement de la Chine. Mais au sein de tous ces pays, alors même s'il y a un resserrement des inégalités, si on prend globalement les pays du Nord et les pays du Sud, elles restent extrêmement grandes. Je vous rappelle que chacun d'entre nous, ici en moyenne, on consomme à peu près 40 fois en matière ou en énergie ce que consomme un habitant du Tchad ou de Tanzanie ou du Malawi. Donc ça reste quand même des inégalités extrêmement importantes, même si on raisonne en moyenne. Mais donc il y a ce double mouvement d'étirement des inégalités au sein des pays, de resserrement des moyennes entre pays du Nord et pays du Sud, mais au sein de quasiment tous les pays du Sud, il y a une augmentation extrêmement importante des inégalités, notamment en Chine, en Inde. Les pays d'Amérique latine étaient déjà extrêmement inégaux. Ça s'est un peu resserré au Brésil avec Lula, mais à nouveau, ça se réétire. Et donc, on a cette situation mondiale où, en fait, dans toutes les sociétés, dans quasiment toutes les sociétés, vous avez une classe dirigeante qui s'enrichit extraordinairement, une classe moyenne sur laquelle on va revenir, et des classes pauvres qui portent, et c'est le grand paradoxe, un des paradoxes de la situation, qui porte le poids le plus lourd de la dégradation de la situation économique, particulièrement depuis la crise financière de 2008, de 2007 et de 2008. Et depuis 2007 et 2008, les quelques pourcents des classes dirigeantes, qu'on va appeler l'oligarchie, s'enrichissent. Les classes moyennes restent à peu près stables, sentent une précarisation venir, mais arrivent à maintenir leur revenu moyen. Et c'est les plus pauvres, les 30% à la louche, qui voient leur situation encore se dégrader. C'est-à-dire qu'ils, collectivement, portent l'essentiel du poids de la crise. C'est tout à fait extraordinaire. Et alors, avec des nuances, là, je vous décris surtout une situation des pays occidentaux, mais une très forte inégalité aussi, par exemple, en Chine. Un expert de la Chine, M. Domnack, parle de plutocratie. C'est une autre forme du concept d'oligarchie, c'est-à-dire une mince couche qui a un enrichissement tout à fait extraordinaire au détriment de l'ensemble de la société, notamment des plus pauvres, même si globalement la société s'est enrichie. Donc on est dans cette situation où dans tous les pays, il y a des tensions extrêmement fortes, qui deviennent de plus en plus fortes. On peut citer les émeutes de 2005, les émeutes qui arrivent de plus en plus souvent dans les pays. Tout le mouvement, d'une certaine manière, le printemps arabe de 2011 peut s'interpréter aussi avec cette lumière de l'inégalité. Donc dans tous les pays, en fait, une lutte pour reprendre le terme célèbre de Warren Buffett, qui reste toujours la deuxième puissance mondiale, la deuxième personne la plus riche au monde, qui avait déclaré vers 2007-2008, il y a toujours une guerre des classes, mais c'est nous les riches qui la gagnons. Donc voilà, c'est ça qui est en train de se produire, une guerre des classes qui est toujours forte. Et en même temps, du fait que les pays sont de plus en plus, là, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que l'oligarchie mondiale, si on peut parler, j'hésite là beaucoup à employer ce terme, mais il y a, et Davos en est un exemple très clair, c'est les classes dirigeantes de tous les pays résonnent en termes d'intérêts communs. Mais après, il y a toujours un jeu, c'est que vous pouvez avoir des conflits quand même. Les trusts capitalistes se bagarrent entre eux. Vinci s'entendra sur certaines choses, les dirigeants de Vinci, avec les dirigeants de la grande firme de travaux publics chinoise, sur un certain nombre de choses. Mais quand ils seront sur tel terrain en Afrique, ils se feront une guerre commerciale. Donc il y a ce double jeu d'intérêts et de compétition. Mais grosso modo, il y a ces intérêts, mais il y a aussi des compétitions nationales. Pour un certain nombre de pays, notamment sur cet axe qui est en train de se refaire, la Chine et les États-Unis, la Chine et les États-Unis et la Russie, etc., et qui vont être de plus en plus, parce qu'on reste dans cette logique de recherche de la croissance au maximum, avec des matières premières qui deviennent non pas rares, mais qui quand même se raréfient, et dont surtout le coût d'extraction devient de plus en plus élevé, des compétitions pour les ressources. Et d'une certaine manière, on pourrait analyser toute la question du Moyen-Orient, pas toute la question, parce qu'il y a un autre élément extrêmement important, mais par rapport à la question du pétrole et de l'accès à des ressources fossiles. Et donc, on va avoir cet enjeu de compétition pour des ressources, de tension au sein de tous les pays qui peut s'analyser en termes de guerre civile, et le fait que la question terroriste est aussi un effet en partie de cette montée très forte des inégalités et du fait qu'un certain nombre de populations en France, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, qui sont françaises et français, un très très petit nombre d'entre eux peuvent trouver un moyen d'expression dans ces formes d'action violente qui s'appellent le terrorisme. Donc il faut se dire aussi, se rappeler que le terrorisme, il est une expression de cette guerre civile. Donc voilà pourquoi j'emploie le terme de guerre civile mondiale, aussi parce que je considère en fait que la société humaine forme maintenant une société. et que ce qui se passe à l'intérieur de cette société humaine est une forme de guerre civile.
Alors peut-être déjà dessiner un petit peu ce qui fait évidemment le dernier chapitre de l'ouvrage sur les 12 leçons finalement à retenir pour éviter la catastrophe donc annoncée. Et dans ces 12 leçons, donc, c'est véritablement la question de quels sont nos moyens d'action finalement, comment agir pour l'éviter. Et avec une petite question subsidiaire pour avoir votre avis sur le sujet, puisque là encore j'ai commencé par une question d'actualité, je vais finir aussi par une autre question d'actualité. Que pensez-vous, donc après la descriptive de ces moyens d'action, de la nomination comme ministre de la Transition écologique et solidaire de Nicolas Hulot dans le gouvernement Macron? Et pensez-vous que c'est un moyen d'action? Puisque dans le livre, vous évoquez le fait qu'il ne faut pas avoir un rejet des institutions. Mais pour autant, est-ce que cette stratégie-là vous semble pertinente?
Alors le terme de leçon, j'en suis moi-même gêné, ayant souvent été un mauvais élève et n'ayant vraiment pas le je crois que je serai un très mauvais professeur, mais voilà, c'est le mot qui m'est venu et pour dire voilà quelles sont des pistes en fait de solutions, et sachant que je ne prétends absolument pas en avoir, je ne sais pas si le système a une solution, mais on a des pistes. Alors je ne vais pas toutes les énumérer, ça serait fastidieux, et j'espère que vous aurez envie de les découvrir par vous-même, mais je dirais que le point principal, c'est un ou deux points, c'est d'abord de considérer ce qui est intellectuellement facile, mais qu'on a du mal à intégrer dans la perception quotidienne et dans la pensée permanente, c'est que la question écologique est absolument centrale. Il n'y a pas d'autres vrais problèmes politiques, au sens que j'ai évoqué tout à l'heure, que la question écologique. C'est ça qui détermine l'évolution de nos sociétés, qui détermine l'avenir de nos générations, qui détermine le présent. Parce que maintenant, c'est plus en 2050, j'ai parlé de 2050, mais les choses vont extraordinairement vite. Donc c'est ça, la question politique centrale est absolument celle-là. La deuxième chose quand même, parce que je pense qu'il y a toujours, par rapport à ce monde complexe, là, en quelques minutes, dizaines de minutes, on a brassé des choses. Je vous prie de m'excuser si j'étais très rapide, et certainement beaucoup de choses que j'ai dites mériteraient plein de discussions, mais on a brassé des choses énormes, et on se dit, mais moi, en tant que petit homme ou petite femme, que suis-je par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà, ne pas, j'allais dire, une attitude d'esprit de ne pas s'affoler, de bien se poser et de pas raisonner en termes d'optimisme ou de pessimisme, mais de raisonner en termes de lucidité et se dire ok, je sais où on est, voilà comment on peut comprendre les choses. Et après, on peut faire des choses parce qu'on peut faire des choses sur son terrain. Sachant que de plus en plus, les bagarres qui se mènent localement sont pensées par rapport au niveau global. Pour prendre un exemple fétiche, vous l'avez évoqué, Notre-Dame-des-Landes. Ce qui est absolument passionnant avec Notre-Dame-des-Landes, c'est que c'est une bagarre totalement enracinée, locale. D'ailleurs, il y avait un collectif à Bordeaux qui était très actif. Je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais il y a quelques années, 2-3 ans, il était très, très présent. C'est une bagarre bien enracinée, mais qui fait le lien avec le global. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on veut lutter contre le changement climatique et construire des aéroports qui ne trouveront leur équilibre économique que s'il y a un développement important du trafic aérien, alors que le trafic aérien est une source extrêmement croissante d'émissions de gaz à effet de serre. Si on est cohérent, on dit le changement climatique, il faut absolument l'éviter son aggravation, il faut protéger la biodiversité, donc on ne construit pas un aéroport. Voilà, il n'y a pas de... Donc, et ça, ce qui est important, c'est que localement, on peut, en ayant une perception globale, vaste des choses, en étant bien enraciné, sans se dire est-ce que je suis optimiste ou pessimiste, mais j'ai les moyens d'agir parce que je vais le faire sur mon terrain, sur mon territoire, ou sur des territoires que je choisis, avec des amis, avec d'autres alliés, et on va pouvoir changer les choses localement parce qu'on a la vision globale des choses. Donc voilà les deux, trois remarques que je pourrais faire. Et pour aller vite, Nicolas Hulot, bon, moi, je lui ai souhaité bon courage. J'ai fait un édito en lui souhaitant bon courage. Et puis, comme Reporter est un espace de débat, on a aussi publié un point de vue très critique de Fabrice Nicolino, mais qui, en même temps, certains d'entre vous connaissent Fabrice Nicolino. En même temps, le dit à fleur et moucheté, parce que on aime bien, je ne sais pas si on aime bien Nicolas Hulot, mais on le respecte. Il y a une vraie intégrité chez cet homme et une vraie volonté de bien faire. Donc voilà. Après, je me dis que c'est utile politiquement. pratiquement, et vous avez rappelé, effectivement, je pense qu'il faut jouer le terrain des institutions. En même temps, je pense qu'il va être très rapidement et pris dans une contradiction, et cette contradiction, elle est déjà là. C'est qu'on a, avec le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, l'expression de l'oligarchie. Du système oligarchique de la pensée néolibérale. Vous voyez ce qui est en train de se passer sur le code du travail. C'est la pensée la plus rétrograde, de dire on va flexibiliser le code du travail, on va donner du pouvoir, plus de pouvoir aux entreprises par rapport aux salariés, et dans l'idée qu'on va développer la croissance. Là aussi, les mots d'ordre, c'est développer la croissance, etc. Et c'est totalement antinomique avec la question écologique. On ne peut pas dire on va développer la croissance, on va maintenir, parce que la question des inégalités est à peu près totalement absente du discours d'Emmanuel Macron. Par exemple, sur un point très concret, l'évasion fiscale, on a fait un récit pour voir quelles étaient les différentes positions sur l'évasion fiscale. C'était absolument fascinant de voir que le représentant de la France En Marche disait on n'a pas étudié la question, on n'a pas d'avis. Alors que vous savez que l'évasion fiscale représente de l'ordre de 70 milliards d'euros qui sont pris et mis aux Bermudes ou je ne sais où, à Luxembourg. Donc voilà, je crois qu'il y a cette disjonction entre d'un côté la volonté de développer une politique néolibérale qui est en fait totalement contradictoire avec ce qu'on veut faire sur la question écologique. Donc on va voir comment, en tant que comme déchiré, va agir Nicolas Hulot. Après, je crois que quelles vont être les forces aux législatives et après sur le terrain qui vont permettre de faire penser la balance, je ne sais pas.
Merci beaucoup pour votre présentation et la clarté de votre propos.
Merci beaucoup.